C'est le journal de Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour, ils raccrochent le gilet jaune, épuisement, finance en berne, tension interne. Ils abandonnent à contre-cœur un mouvement qui cherche un second souffle avant un 17e samedi qui se veut décisif. Rencontre dans ce journal. 8 mars, 43% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises françaises. Bien, mais encore, les têtes des entreprises restent très masculines. Des enfants livrés en pâture sexuelle à la famille. Nous irons en Isère où 7 adultes sont mis en examen pour viol et sévices sexuels. Nous serons aussi en Syrie où des milliers de civils fuient le dernier réduit djihadiste assailli par les forces démocratiques syriennes. Et puis en football, Rennes crée la sensation victoire 3-1 sur Arsenal. Les Bretons peuvent rêver au quart de finale de la Ligue Europa.
Et à 7h50, au micro d'Ali Badou, Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat.
France Inter.
17e samedi de mobilisation.
Pour les gilets jaunes, près de 4 mois de manifestations hebdomadaires qui rassemblent chaque fois moins de monde. La baisse est constante depuis le début de l'année. 39 000 samedi dernier, 8 000 de moins qu'une semaine avant. Épuisement, problèmes financiers, désaccords et même engueulades. Certains raccrochent carrément. Le gilet jaune reste dans la boîte à gants. C'est le cas du représentant du collectif de Fontainebleau que vous avez rencontré, Rémi Brancato, un engagé de la première heure pourtant.
Il avait rejoint le rond-point de l'obélisque à Fontainebleau mi-novembre parce que l'essence coûtait trop cher, surtout pour son entreprise indépendante d'élagage et d'abattage d'arbres. Alors pendant plus de 3 mois, Jonathan Rebus-Sarda devient représentant du collectif de Gilets jaunes et abandonne les chantiers.
J'ai annulé client par client 55 000 euros de chiffre d'affaires sur l'hiver 2019.
Avec 6 000 euros de découvert, il est aujourd'hui fiché à la Banque de France et il y a 2 semaines, il a repris le travail.
Si c'était à refaire, je le referais parce que je peux dire à ma fille que je me suis battu jusqu'au bout. Maintenant, j'ai de l'amertume parce qu'après avoir passé tant de temps, vraiment avoir côtoyé un groupe, pour moi, c'était vraiment une famille. Ça fait encore très très mal de se dire qu'une poignée de personnes, ils ont tout balayé.
Car ce qui a surtout poussé Jonathan à stopper le combat, ce sont les désaccords dans le groupe. Certains voulaient rester sur les ronds-points, lui, non. D'autres dénonçaient des détournements de fonds. L'artisan balaie ses accusations et ne veut retenir que le meilleur, comme l'organisation d'une vingtaine de débats.
Des personnes qui n'étaient pas gilets jaunes, qui se sont présentées dans les débats, on a des cas, oui, où ils nous ont dit, écoutez, maintenant qu'on a pu entendre vos idées, on vous soutient.
Et même s'il garde, dit-il, le cœur jaune, il n'ira pas manifester demain. Tout juste passera-t-il une heure ou deux à Melun pour soutenir une mobilisation.
Et ce portrait, vous pouvez le retrouver en longueur sur franceinter.fr. A contrario, certains gilets jaunes veulent marquer les esprits à une semaine de la fin, notamment du grand débat. Ils parlent d'un 17e samedi décisif et ils appellent à se rassembler aussi à Paris tout le week-end, dès aujourd'hui jusqu'à dimanche. C'est une revendication emblématique des Gilets jaunes, le rétablissement de l'ISF. Eh bien, à l'Assemblée, les députés lui ont opposé une fin de non-recevoir. Par 58 voix contre 45, ils ont rejeté le texte porté par les communistes. Démagogique, inefficace selon la majorité En Marche et la droite.
Il est 7h33, cocorico en ce 8 mars.
Et oui, la France est sur la première marche du podium mondial pour le nombre de femmes dans les conseils d'administration. On le souligne bien volontiers en cette journée internationale des droits des femmes, mais il y a un mais. Si les quotas imposés par la loi ont féminisé les conseils d'entreprise, d'administration des entreprises de plus de 500 salariés, on voit très vite qu'un chiffre peut en cacher un autre. Les explications de Françoise Milewski, elle est chercheuse à l'OFCE, jointe par Maxime Deps.
Bien sûr, le système de quotas porte ses fruits. Il a permis d'augmenter sensiblement la part des femmes dans les conseils d'administration et d'aboutir à l'objectif qui était fixé à 40% en 2017 et même de le dépasser un peu puisqu'on est aujourd'hui autour de 43%. Et il a été efficace parce qu'il était assorti de fortes sanctions et d'une obligation de droit qui s'est imposée aux entreprises. Mais il ne résout pas tout, loin de là, concernant la place des femmes dans les postes d'encadrement en général, puisque la question de la participation des femmes au comité exécutif des entreprises est encore un gros problème aujourd'hui. Dans ce qu'a dit Muriel Pénicaud récemment, Les entreprises ont une note de 3 sur 10 pour la présence des femmes dans les 100 plus hauts postes de l'entreprise. Donc on est très très loin de passer d'une égalité de droit à une égalité réelle.
Françoise Milewski, chercheuse à l'OFCE, en ce 8 mars, partout en France, aujourd'hui, des appels à cesser le travail à 4h-20 cet après-midi, heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement, entre guillemets, si l'on considère qu'elles sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes. Et puis dans le journal Le Parisien aujourd'hui, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, l'assure, la PMA pour toutes les femmes sera à l'agenda parlementaire avant l'été. Elle se dit également favorable à un congé paternité plus long. Il faut le souligner aussi en ce 8 mars, alors que les Restos du Cœur lancent leur campagne d'été, les femmes seules avec enfants sont de plus en plus nombreuses et sont désormais majoritaires. Des viols répétés sur les enfants de la famille. En Isère, 7 adultes ont été mis en examen cette semaine pour sévices sexuels. Ils sont en détention. Des précisions avec Céline Loiseau.
D'après une source proche du dossier, ces 3 enfants ont tout simplement été livrés en pâture, soumis à la perversité d'adultes sans aucune limite. On est dans un milieu très défavorisé. Au total, dans cette affaire, 10 adultes de 30 à 64 ans ont été interpellés par la brigade de recherche de Bourgoin-Jallieu. Il y a plusieurs membres de la famille, dont la mère, la grand-mère et le beau-père des enfants, également des amis de cette famille. Des adultes à qui la justice reproche des viols, des agressions sexuelles en réunion et ce de manière régulière et répétée sur un garçon de 10 ans et 2 fillettes de 7 et 4 ans. Le récit est effroyable avec notamment des jeux sexuels qui mettent en scène les enfants entre eux. C'est parce qu'en septembre dernier, l'aîné placé en famille d'accueil comme ses 2 demi-sœurs ose briser le silence que l'enquête débute. D'après le parquet de Grenoble, l'horreur démarre à l'été 2016 quand la maman des enfants se met en couple avec un nouvel homme. Des faits qui ont duré plus de 2 ans. Dans cette affaire, le beau-père, la mère, la grand-mère et un oncle ont été mis en examen et écroués hier. 3 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Pour les 3 autres, les investigations se poursuivent.
Les 2 policiers condamnés à 7 ans de prison pour le viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres ont été remis en liberté hier soir sur décision de la cour d'appel. Une décision logique selon leur avocat. Comme en première instance, ils se présenteront libres sous contrôle judiciaire à leur procès en appel. Le cardinal Barbarin va présenter sa démission au pape après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Le chef de l'Église catholique qui, lors du sommet au Vatican, a promis la tolérance des 0 pourrait l'accepter, cette démission. Parallèlement, le cardinal Barbarin a fait appel de sa condamnation. En Syrie, il fuit Baghouz par milliers, des femmes, des enfants surtout. À la faveur d'une pause dans les combats qui durent depuis 3 semaines, les civils donc sortent du dernier réduit du groupe État islamique à l'est de la Syrie. C'est un reportage d'Aurélien Colli, envoyé spécial dans la région de Baghouz.
Les forces démocratiques syriennes le reconnaissent, elles ne s'attendaient pas à un tel scénario pour la dernière bataille contre Daesh. Chaque jour, on croit que c'est la fin, mais chaque jour, il y a encore des civils qui sortent et ça ne s'arrête jamais. On est surpris par leur nombre, concède leur porte-parole, Mustafa Bali. 7000 sorties depuis le début de la semaine. Des hommes, des femmes, des enfants, épuisés, hagards, blessés, partisans d'un califat en lambeaux que des centaines de civils, eux, ne veulent toujours pas abandonner. Ce sont des familles de djihadistes qui veulent rester à l'intérieur, mais pour nous, ça reste des civils et on essaie de les récupérer, explique le porte-parole de la force arabo-kurde, qui compte en fait sur le siège de l'enclave et l'alternance de pilonnage et de pause pour la vider de tous ceux qui ne combattent pas. Pour les djihadistes, on n'a pas de chiffres précis. On pense qu'ils sont encore plus d'un millier à l'intérieur, ajoute-t-il, en rappelant qu'aucune date ou ultimatum n'a été fixée et que la priorité reste d'épargner les vies de celles et ceux qui n'ont pas pris les armes. Dans la région de Baghouz, Aurélien Colli, France Inter.
D'autre part, un groupe de réfugiés syriens appelle la Cour pénale internationale à déclencher une procédure contre Bachar el-Assad, contre son régime, pour crimes contre l'humanité commis pendant les 9 ans de guerre en Syrie, des tortures, des viols, mais aussi des attaques chimiques et des disparitions. Coupable, la Cour d'assises de Bruxelles déclare le français Nemouche coupable de 4 assassinats terroristes commis au musée juif de la ville. C'était en 2014. Le verdict sera rendu lundi, mais dit Nemouche Lamouche et son co-accusé encourent la perpétuité. Ce n'était pas un acte antisémite. Samedi dernier, la stèle marquant l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg détruite par les nazis a été heurtée accidentellement par un automobiliste. L'enquête l'a montré notamment par les caméras de surveillance. Samedi matin, cette stèle avait été retrouvée renversée. Cela avait entraîné une vague d'indignation dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites. Et puis à l'étranger encore, Caracas, plongée dans le noir, une gigantesque panne d'électricité a frappé hier la capitale du Venezuela, la majeure partie du pays aussi. À Carapaz, la coupure a été brutale. Métro, feux de circulation, téléphone, internet coupés. Le gouvernement de Nicolas Maduro crie au sabotage de la principale centrale du pays. L'opposition accusait les autorités de ne pas avoir suffisamment investi.
Il est 7h40, Bernadette. Ballon rond, vive les Bretons!
Eh oui, il n'y a pas que les chapeaux ronds qu'ils font valser, ces sacrés Bretons qui réalisent un exploit. Rennes en Ligue Europa, 3-1 sur Arsenal, match renversant, mené dès la troisième minute. Les Rennais se relancent en deuxième période, ils égalisent, ils profitent d'un but de l'adversaire contre son camp et ils donnent le coup de grâce avec un troisième but à la fin du match, le tout dans un stade bouillant, chaud bouillant, Cédric Guillot.
Le Stade Rennais disputait hier soir le 55e match européen de son histoire, sans doute le plus accompli, le plus fou, devant plus de 29 000 supporters au Roazhon Park, l'attaquant rennais Adrien Hunou.
C'était extraordinaire, vraiment, moi, ce qui est formé ici, ça fait un petit bout de temps que je suis ici, et vraiment, j'avais jamais vu ça.
Pour l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, ça ne fait aucun doute, l'ambiance a porté ses joueurs vers la victoire.
Ce qui est exceptionnel, c'est que durant le premier quart d'heure où on a souffert, ils n'ont cessé de nous soutenir. Ils ont été exceptionnels. Et les joueurs en seconde période ont été à l'image du public, une symbiose complète, ce qui fait une magnifique soirée.
Une de plus en Ligue Europa pour le Stade Rennais, tombeur du Betis Séville au tour précédent et logique vainqueur d'Arsenal hier soir lors de ce match aller. Rennes et ses supporters qui grandissent sur la scène européenne, selon l'attaquant Atem Ben Arfa.
Je pense qu'une histoire est en train de se créer dans toute la ville. Moi personnellement, je ne savais pas que Rennes aimait autant le foot. Il y avait 90 000 demandes pour ce match-là. C'est incroyable, c'est vraiment une terre de foot. Il fallait juste que le club s'enflamme pour que tout le monde
5000 supporters rennais feront le déplacement la semaine prochaine à l'Emirates Stadium d'Arsenal pour porter le Stade Rennais vers les quarts de finale de la Ligue Europa. Rennes, Cédric Guillou, France Inter.
Avec deux buts d'avance, en effet, Rennes peut croire à la qualification pour les quarts de finale. Et même si on n'est pas breton, on les soutient.
Merci Bernadette Chamonaz. Allez, un nouveau point route, Victoria Coussa, avec un accident dans le Var.
Effectivement, sur l'autoroute A57 à Toulon, direction le Canet des Morts, sur la voie de droite. Alors attention à bien ralentir. D'ailleurs, pour se rendre à Toulon par l'Est, il y a du monde quand vous descendez de l'A570 à partir de la Farlède. Dans le Nord, c'est très chargé sur l'autoroute A1 pour arriver à Lille par le sud. Prévoyez une demi-heure de plus qu'en temps normal. En Ile-de-France, si on fait le point dans les transports en commun, on peut dire que ça va mieux, mais la circulation des Transiliens reste très ralentie à cause d'une panne en gare Saint-Lazare.